Bonjour à tous et bienvenue sur ce mug numéro 262. Nous sommes le 15 décembre 2020 et on démarre tout de suite. Je ramène le sapin. Voilà, on le pose là, le sapin. C'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Un grand merci à Macalga, Paul Tesson, Macalga pour un sub, ça fait 6 mois, merci à toi, et Paul pour un prime, ça fait 7 mois. Merci de votre fidélité et de renouveler vos primes et vos subs. On en a bien besoin, comme tout le monde, il faut bien manger. Et c'est bon. C'est bon. Le jour où vous me verrez perdre 10 kilos... merci Dantologue pour ton Prime, 6e mois d'abonnement. Zaza TV aussi, merci pour ton Prime. Et merci Oxymore. Alors là, j'ai une rafale de subs et de Prime. Merci beaucoup à vous. J'espère que vous allez bien ce matin. Qui est en visio? De quoi tu parles? Je ne sais pas de quoi tu parles, mais c'est pas grave. On va regarder de quoi on va parler ce matin. On va bien évidemment parler de la méga panne Google hier. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Pour l'instant, il y a des petits communiqués. On verra. On verra a priori ce qui s'est passé. On parlera également de l'Union européenne qui dévoile son plan pour dompter les géants du numérique. On parlera d'iOS 14, une nouvelle fonction pour l'iPhone qui va tout changer. Oh là là, quel titre, Forbes. On parlera aussi des émeutes à Wistron, l'usine indienne qui fabrique les iPhone SE. On reparlera encore une fois de Cyberpunk 2077 qui autorise les joueurs déçus à se faire rembourser. On parlera de Pornhub qui a supprimé plus de la moitié des vidéos de sa plateforme. Et on terminera par une tartine. On va parler encore d'iOS 14.3, mais on va faire un focus sur le Pro RAW. Je vous montrerai un petit peu comment on utilise le Pro RAW. On fera une petite démo. Je vous montrerai un peu les possibilités du Pro RAW qui sont assez intéressantes. Voilà pour le sommaire d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Et je vous propose qu'on démarre tout de suite en lançant le Kawa. Merci Oxymore pour ton sub, 5e mois d'abonnement. Et on va commencer tout de suite parce que effectivement on a un planning un petit peu chargé. La méga panne de Google, effectivement, à partir de 12h40 heure française hier, vous l'avez probablement constaté. Putain, mon article ne s'affiche pas. Si c'est pas un coup du sort, ça. Ah, mais c'est pas possible. Bon, je vais vous raconter de tête. Hein. Attendez, je regarde si mes autres articles s'affichent pas. Parce que là, je vais avoir un problème, sinon. Non, les autres articles s'affichent. Il y a juste celui-là qui ne s'affiche pas. Super. Merde. Attendez, je vais copier le lien et je vais ouvrir dans un autre navigateur. Je n'aurai pas les surlignages. Mais je préfère quand même. Hop. Eh bien, ça ne veut pas. Eh ben, le lien est mort, comme Google. Bref, Google down hier, vous en êtes tous aperçus. Il y a eu un peu un concours de qui ferait le meilleur tweet, auquel j'ai participé en proposant mon homme préhistorique et le futur de la chaîne Naotech, où nous ferions des comparatifs entre le silex et le bois. Je le rappelle, Team Bois, malgré quelques arguments moyennement recevable d'Olek, je pense que le team bois pour faire du feu est quand même mieux que le team silex. Mais on reparlera de ça un 1er avril. Tout ça pour dire, effectivement, tous les services de Google sont tombés comme des mouches hier. Olek qui arrive, team silex. Ah non, Samuel aussi, team silex, vous faites chier. Les graviers, hein, ça va, les silex, non. allez suivre nos échanges avec Oleg sur Twitter. Ça y est, tout le monde se met Team Silex. De toute façon, vous avez un tel esprit de contradiction qu'il suffit que je dise quelque chose pour que vous fassiez l'inverse. Donc, Team Silex. Allez. non, on est à l'âge préhistorique. La loupe, tu repasseras. Hein, Cyril Boucher, tout de suite, il y en a qui veulent aller plus vite que la musique. Bref, tout ça pour dire, les services Google ont commencé à tomber comme des mouches dans le monde entier. On est revenu à l'âge de Pierre. panique, tout le monde était en panique. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas... Alors, certains ont constaté qu'en passant en mode privé, les services étaient encore là. Donc, tout concorderait pour dire que c'est les services d'authentification de Google qui sont brutalement tombés en panne. Les conséquences ont été plus ou moins graves. Ça n'a pas duré hyper longtemps, ça a duré une heure. Mais quand même, il y a des histoires de gens, justement, chez eux, qui n'arrivaient plus à allumer la lumière. Parce que, alors, j'avoue que j'ai un petit peu du mal à comprendre. Parce que moi, je sais que pratiquement toutes mes lumières sont connectées. Mais enfin, j'ai quand même encore mes interrupteurs. Alors, oui, je les ai scotchés pour pas qu'on les éteigne par... Enfin, j'ai mis un morceau de scotch pour pas qu'on les... On les éteigne parce que le principe des lumières connectées, c'est que vous allez les allumer plus avec un interrupteur. Enfin, j'ai quand même accès à mes ampoules, quoi. Il est hors de question que j'enlève des manœuvres manuelles. J'envisage pas la domotique comme quelque chose où je donnerais toutes les clés de chez moi à un service tiers. Bon, pour ma part, c'est Siri, donc j'ai rien sur Google, donc j'ai pas eu de problème. Certains ont parlé quand même de problèmes dans les entreprises. C'est vrai qu'il y a des entreprises qui travaillent beaucoup avec les Google Docs et tout. Bon, ça a été une interruption d'une heure. Ça a surtout montré à quel point on était dépendant de Google. À pas mal de gens, c'était « Ah ouais, ok, je peux plus rien faire, quoi ». J'ai un Gmail, j'utilise les Google Docs, je regarde YouTube. C'est pas génial pour Google qu'il y ait un réveil brutal, et je l'ai vu dans des tweets, des gens qui disent « Ah ouais, quand même, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui passent par Google, quoi. » Et pour certains, ça a été un peu un réveil un peu brutal sur leur dépendance, effectivement, à Google. Alors, je suis moins anti-Google, par exemple, que Guillaume. Parce que je prends pas autant de précautions. Et puis, c'est comme ça. J'utilise, pour mon confort, beaucoup de services Google. Mais c'est vrai, et Guillaume m'a sensibilisé aussi à ça, que, on va dire, je commence à varier. Par exemple, j'utilise pratiquement plus Google Maps. Je préfère utiliser Plan d'Apple. Il y a des services, voilà, je commence à essayer de panacher les choses. Après, bah, mon cœur de métier. Merci beaucoup, Jubei, pour ton Prime, deuxième mois d'abonnement. Évidemment, notre business repose sur un service Google. YouTube, c'est Google. Je peux pas me passer de YouTube. Pour l'instant, et c'est dommage, mais il n'y a pas d'alternative viable à YouTube. On a beau vous le répéter, alors je sais, j'en ai qui vont me dire, mais tu n'as qu'à mettre sur... bac truc machin, téléchargement truc bidule ou Dailymotion. Moi je veux bien, mais vous le saviez peut-être pas, mais pendant très longtemps on a mis nos vidéos sur Dailymotion. Vous étiez trois à les regarder sur Dailymotion. Moi je veux bien, mais nous on va là où le public est aussi. Et alors certains vont me dire, oui mais t'as qu'à bouger, le public suivra. Non. Entre 1 et 5% du public nous suivra si on va sur des plateformes obscures. Voilà. Et qu'est-ce que vous faisiez? Alors, nous, ça a été d'autant plus flippant qu'on était en train de faire des manips de sécurité sur la chaîne YouTube, que je ne rentrerai pas dans le détail. Certains modérateurs ont d'ailleurs dû recevoir des nouvelles invitations. Bref. Et un peu au moment où j'étais en train de faire ça, je dirais 30 minutes à une heure après, et ben notre page YouTube, il n'y avait plus de vidéo du tout. Donc ça, c'est un des pires cauchemars hein, pour un YouTuber. Ça veut dire soit la page a été hackée et on a effacé tout le contenu, soit t'as tout perdu, quoi. Donc voilà, 5 ans de contenu, 5 ans de travail parti effectivement à la masse. Donc c'est vous qui avez fait sauter la machine, c'est probable. C'est probable. En même temps, vous ne seriez pas sur Google, beaucoup d'entre vous n'auraient pas découvert. Oui, oui, tout à fait. Et en plus, c'est vrai que le matin, je venais de parler du problème de la vulnérabilité des numéros de téléphone sur le hacking et la double authentification. Donc, ça, dans une fraction de seconde, je me suis dit, ça y est, c'est fini. Bon, après, j'ai raisonné, j'ai vite vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait un problème avec Google, donc on n'a pas paniqué, mais c'est vrai que ça a fait une petite suée froide, hein, quand même. Pas de sauvegarde sur YouTube. Et si YouTube est down et que tu as fait des sauvegardes sur YouTube, ça n'a pas beaucoup avancé. Alors, effectivement, quelque part, on va dire 90% de nos vidéos, on pourrait les republier quelque part parce qu'on garde nos montages. Nos très vieux montages, on n'arriverait plus à les publier. Mais bon, on a toujours nos vidéos, mais enfin, ça veut dire perdre toutes les vues. Et une chose que vous savez peut-être pas, mais une partie de notre chiffre d'affaires vient du fait que beaucoup de gens regardent nos anciennes vidéos et pas simplement les dernières qu'on a publiées. C'est ce qu'on appelle un fonds de catalogue sur une chaîne YouTube. Et plus une chaîne YouTube, elle est ancienne, plus elle a un fonds de catalogue. C'est un espèce de fonds de roulement. Qui mine de rien assure, allez, on va dire au moins un quart de notre chiffre d'affaires de revenus publicitaires émanant directement de YouTube. Donc perdre ces archives, ça serait un gros problème pour nous. Ça serait un très très gros problème. Voilà. En tout cas, il est fort probable qu'on ait plus d'explications de Google aujourd'hui. En tout cas, on espère. C'est vrai que Google a dit qu'il travaillait pour plus que ça se reproduise. Ben, on a envie de dire ouais, il faudrait pas que ça se reproduise, quoi. Pendant une seconde, t'as cru que c'était fini. Tu t'es imaginé sur une plage, un cocktail à la main, à dire enfin débarrassé. Ben, le problème pour avoir la plage et le cocktail à la main, c'est qu'il faut la payer, la plage. Et le cocktail à la main. Donc non, je me suis pas vu exactement sur une plage un cocktail à la main. Je me suis plutôt vu sous un pont sur le périph avec une bouteille de vinasse. Non, c'est horrible ce que je dis. Merci beaucoup Sawa pour ton sub. 4e mois d'abonnement. Revends le yacht. Non, il est hors de question que je revende le yacht. Le yacht, c'est sentimental. Voilà, c'est une petite chose sentimentale. C'est étonnant que tout bug. Il y a d'abord eu Molotov pendant 24 heures, maintenant Google. Alors, c'est probablement pas lié. Il y a eu aussi des problèmes avec la messagerie de Microsoft, mais probablement dû à une surcharge de gens qui, voyant que Google déconnait, sont rabattus sur leur mail Outlook. A priori, la vulnérabilité vient vraiment du système d'authentification. C'est pas tous les serveurs Google qui ont été mis en rade, mais c'est l'authentification qui était en rade, donc ne vous permettait plus de communiquer avec vos documents et vos liaisons Google. C'est ça le problème. Et le tutoriel, je l'ai expliqué en début d'article. T'es peut-être en article, ce qu'on faisait hier à 12h40. Discord qui bug. C'est probablement dû à une surcharge aussi. Hein. Il faut bien comprendre que comme il y avait un bug Google, tout le monde s'est retourné vers des services qui n'étaient pas Google. Donc les gens se sont mis à parler peut-être beaucoup sur Discord pour dire « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Voilà, voilà. Allez, on continue dans les articles. On va parler d'iOS 14.3 qui, vous avez probablement pour ceux qui utilisent iOS, eu la mise à jour hier. Si vous ne l'avez pas faite hier, je vous conseille de la faire aujourd'hui. Il y a vraiment des choses intéressantes dans cette mise à jour 14.3. On va faire le focus sur deux choses assez intéressantes. La dernière, le ProRo, on en parlera en fin d'émission. Mais là, c'est un changement que vous n'avez peut-être pas vu d'iOS 14.3, mais qui est vachement intéressant. c'est que maintenant, il y a une nouvelle section d'information sur les pages de l'App Store qui détaille un résumé, détaillant un résumé des pratiques de l'application en matière de protection de la vie privée. Et c'est quelque chose d'assez intelligible. Apple a fait un espèce d'étiquetage nutritionnel, un peu comme vous avez au dos des boîtes de bouffe, en détaillant très exactement quelles sont les données collectées par telle ou telle app et à quelle fin. Je vais vous montrer en live sur mon iPad comment ça fonctionne, mais je vous lis un petit peu déjà l'article. Ça comprend les données collectées par l'application, si elles peuvent être utilisées pour vous suivre, si elles sont liées à vous. Grâce à ces informations, vous devrez être en mesure de décider si la fonctionnalité d'une application particulière est un compromis intéressant pour les données qu'elle collecte. On s'approche de ce que j'aimerais, du contrat clair. Ok, je veux bien utiliser Facebook, mais qu'est-ce que je donne en échange? Et là, vous allez le voir, les choses sont assez claires. Ça va dans le sens d'une plus grande transparence pour les utilisateurs d'iPhone et d'iPad. Elles encouragent les développeurs d'applications à ne collecter que les données dont ils ont besoin. WhatsApp s'est rebiffé, qui appartient à Facebook, et qui a qualifié ces nouvelles informations de non compétitives si elles s'appliquaient qu'à des applications autres que celles d'Apple. Apple a répondu et il a dit « mais l'étiquetage concerne aussi nos applications, donc on ira vérifier, on ira chercher des applications Apple et on verra si l'étiquetage avait été fait. L'étiquetage, pour l'instant, n'est pas fait pour toutes les apps. Ce matin, j'ai regardé rapidement, il y a l'étiquetage sur Facebook, il n'y a pas encore l'étiquetage, par exemple, sur Google Chrome. Mais, a priori, ça va être obligatoire. Ils l'ont rendu obligatoire à partir du 8 décembre pour toutes les nouvelles apps, et petit à petit, Apple va obliger toutes les apps à utiliser effectivement cet étiquetage. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. On va aller sur l'Apple Store. On va aller ensemble sur l'Apple Store. On va chercher donc Facebook. Par exemple, l'appli Facebook. Voilà. Hop, elle est là. Et ça, vous connaissez cet affichage de l'appli, mais maintenant, quand vous scrollez un petit peu en bas, voilà, vous avez ces deux cases. Données utilisées pour vous suivre, coordonnées identifiant autres données, et données établissant un lien avec vous. Les données suivantes peuvent être collectées et liées à votre identité. Et là, vous voyez à droite tout. Et quand vous cliquez dessus, là, ça devient un petit peu plus clair. Je remonte. Donc, les données utilisées pour vous suivre, les publicités tierces, coordonnées identifiant autres données, publicité au marketing du développeur, coordonnées identifiant autres données, analyse, coordonnées identifiant autres données, personnalisation du produit. Donc, ça, c'est la fameuse collecte de données qui permet le fonctionnement de Facebook. Donc, ça, je dirais que c'est le truc. Une appli ne peut pas fonctionner sans un minimum de collecte de données, ce qu'il faut bien comprendre. Et après, ça va même beaucoup plus loin, puisque ça vous montre, voilà, tout ce qui est collecté pour les publicités tierces, achats, informations financières, emplacements, coordonnées, contacts, contenu utilisateur, historique de recherche, historique de navigation, identifié, données d'utilisation, diagnostic, autres données. Publicité ou marketing du développeur, achat, information financière, blablabla, blablabla, bla, 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 analyse, blablabla, 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 bla, 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 personnalisation du produit, fonctionnalité de l'app. Voilà. Donc, on voit quand même que Facebook, il prend quand même pas mal d'infos et je trouve ça vachement bien et vachement pédagogique de la part d'Apple d'avoir fait ça. On va voir justement une application Apple. Alors, Apple n'a pas de réseaux sociaux. Donc, on va chercher par exemple FaceTime. Mince. Attendez une seconde. Yep. Voilà. On va chercher par exemple FaceTime. Pour aller vite. Donc, d'Apple. FaceTime. Et là, alors bien évidemment, ça joue dans le sens d'Apple. Il y a beaucoup moins de collecte de données. Données établissant un lien avec vous, données n'établissant aucun lien avec vous. Et donc, on va voir dans le détail. Données établissant un lien avec vous, analyse coordonnées identifiant, fonctionnalité de l'app coordonnées historique de recherche identifiant, et données établissant aucun lien avec vous, l'analyse de l'emplacement et le diagnostic. Voilà. Alors, on ne peut pas comparer FaceTime à Facebook, on est d'accord. Hein. Mais alors, c'est ce que j'ai cherché ce matin. Si on regarde Google Duo, on voit justement que pour l'instant, Google n'a pas étiqueté ces trucs, aucune information fournie ici. Donc ça va venir, mais Google n'a pas encore activé. Si on regarde par exemple Skype, tiens, on va aller voir chez Microsoft. Skype, pour l'instant, ça n'a pas été étiqueté. Messenger, Facebook. Là, par contre, ça a été étiqueté. Et on voit effectivement que là, tout de suite, Facebook, il y a quand même beaucoup plus d'informations qui sont collectées pour la publicité, notamment publicité tierce, publicité ou marketing du développeur, analyse, etc. Alors, je vois que quelqu'un demande Apple Music. Eh ben, on va aller voir Apple Music. Et puis, on va comparer, par exemple, Apple Music et Spotify. Alors, Apple Music. Apple Music. Alors, musique. Là, bah, on voit quand même qu'il y a beaucoup plus de données qui sont utilisées pour, alors, publicité ou marketing du développeur. Ça, c'est pour les pubs internes d'Apple. Donc oui, ils se servent de vos achats, de vos coordonnées, de vos identifiants et de vos données utilisateurs Apple pour vous faire de la pub pour des produits Apple Music. Par contre, ils ne revendent pas les espaces publicitaires générés à des agences de pub ou des régies publicitaires tierces. Sinon, on aurait une colonne publicité tierce. Ouais, c'est uniquement avec iOS 14.3. Ils expliquent aussi qu'ils utilisent ces données pour faire des analyses, pour la personnalisation du produit, hein, votre utilisé, et les fonctionnalités de l'app. Pour que l'application fonctionne, ça c'est une chose, il faut bien comprendre, la collecte de données est obligatoire pour qu'une application fonctionne. Et ils expliquent aussi, voilà, les données n'établissant aucun lien avec vous. Alors on va regarder Spotify, voir si c'est mieux, moins bien. Yep. Spotify. Alors, Spotify, est-ce qu'ils ont étiqueté déjà? Alors, voilà. Alors, données utilisées pour vous suivre. Alors, Spotify vend les espaces pour les publicités tierces. Donc, votre emplacement, les coordonnées, les identifiants et les données d'utilisation. Pour leur publicité interne aussi, ils utilisent pour l'analyse, pour la personnalisation du produit, pour les fonctionnalités de l'app et pour les autres finalités. Et pareil, les données établissant un lien avec vous pour les publicités tierces. Pour les publicités, alors ça doit être pour la version gratuite, effectivement, pour faire des pubs de la version gratuite de Spotify. Publicité marketing du développeur, analyse, personnalisation du produit, fonctionnalité de l'app et autres finalités. Voilà, je trouve ça super intéressant, hyper pédagogique. Ça permet effectivement de comparer un petit peu, hein, des applications et de voir ce qu'elles prennent comme collecte de données. Alors, Telegram, Signal, Netflix, faites-le chez vous. Hein, on va pas passer une heure effectivement à regarder tous nos services et des données qu'ils collectent, mais c'est fort de la part d'Apple de faire ça. Ça va pas plaire à tout le monde. C'est comme l'étiquetage nutritionnel. Hein, ça plaît pas à tout le monde. Mais au moins, on tend vers une information. Et là, je la trouve quand même vachement compréhensible, vachement claire avec les petites icônes. On aurait presque aimé qu'ils mettent une possibilité de comparaison, de comparer des applis entre elles. Et surtout, ça va être incitatif pour les développeurs. Maintenant que tout est clair, les développeurs vont peut-être se dire, bon, il faudrait qu'on diminue un petit peu ce que les gens vont voir sur la collecte de données, qu'on ait un peu moins d'icônes dans la colonne. Donc ça va peut-être les obliger effectivement à aller un petit peu plus mollo sur les collectes de données, quoi. Explication sera encore mieux pour donner des examens compréhensibles par le KIDAM. Bah, ce qui serait bien, effectivement, c'est qu'on puisse, mais ça viendra peut-être en cliquant sur les icônes, que ça explique très exactement sur, dans les identifiants, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Ça va dans le sens de ce que Apple va faire, le gros coup qu'ils vont mettre en 2021. Je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo « Protéger votre vie privée avec iOS 14 ». Allez voir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Apple va taper très fort dans les couilles de Facebook, de Google, puisqu'il s'apprête à... alors, je vais reprendre les termes exacts. Il s'apprête effectivement à lancer une fonctionnalité qui s'appelle App Tracking Transparency, ATNT. Je vous ai fait une démo en vidéo. Ça va vraiment dire exactement ce qui se passe, où que vous soyez sur le web, qu'est-ce qui est en train de se passer et quelles sont les données qui sont en train d'être prises. Et en plus, alors moi, je sais que ça me l'a fait avec iOS 14.3. Quand j'ai ouvert Instagram, quand j'ai ouvert Facebook, il m'a dit, est-ce que vous voulez que les données soient... Est-ce que vous voulez avoir des pubs personnalisées ou pas? Pour vous la faire simple. Par curiosité, j'ai fait non. Et maintenant, j'ai des pubs non personnalisées sur Instagram et sur Facebook. C'est une cata. J'ai des pubs qui n'ont rien à voir avec qui je suis. Je pense que je vais revenir aux pubs personnalisées. Mais au moins, je sais que je peux désactiver, quoi. Pour bosser dans une régie publicitaire, il y a encore 2 mois, tout le secteur flippe énormément sur ce que fait Apple. Ah oui, tout à fait. Là, Apple jette vraiment un pavé dans la mare de tout le business. Et d'ailleurs, c'est un peu dramatique pour certaines entreprises. Des entreprises vont couler à cause de ce que va faire Apple. Il y a des gens qui vont se retrouver au chômage dans le secteur de la publicité. Alors, vous êtes très contents parce que vous êtes anti-pub. Je connais pas de gens qui sont pro-pub. De toute façon, tout le monde est anti-pub. Et c'est normal. La pub est un facteur du commerce qui est intrusif, qui a toujours existé, qui est indispensable au commerce, mais qui est une forme de nuisance. Je suis le premier à le reconnaître. mais il n'y a pas de commerce sans publicité, ça n'existe pas. Mais bon, on va pas refaire les choses. Mais effectivement, là, Apple tape très très fort sur tout le secteur de la publicité. Revoir leur business model, il y a un moment où tu peux pas revoir ton business model si on tue ton business model. Et là, pour le coup, Apple, en tout cas pour les utilisateurs d'iPad et... Moi, étant un ancien publicitaire, c'est quand même violent ce que fait Apple. Comme je vous dis, et c'est pas un hasard si une des plus grosses boîtes de pub françaises, CLM BBDO, dans laquelle j'ai travaillé autrefois, a disparu, corps et âme. Elle a complètement disparu. C'était une des plus grosses boîtes de pub françaises, comme Publicis ou d'autres. Elle a complètement... disparu. Alors, vous vous en foutez probablement, puisque les gens de la pub... Moi, c'est mes anciens collègues, donc je me sens un peu solidaire. Mais voilà, c'est la crise dans la publicité. Les boîtes sont en train de fermer, des gens se retrouvent au chômage. Alors, je sais, on a moins d'émotion pour des gens de la pub qui se retrouvent au chômage. Mais bon, voilà, c'est quand même des gens au chômage. Tant mieux si ces boîtes coulent, tu vois. Il y en a qui vont à fond. Ouais, je peux pas raisonner comme ça. Le problème, et je vais terminer là-dessus, mais réfléchissez quand même bien à ça, c'est qu'en tuant les formes de publicité que vous connaissez aujourd'hui, on est en train de mettre le vent en poupe à des formes de publicité dont vous voulez vraiment pas. C'est-à-dire des publicités beaucoup plus cachées, finalement beaucoup plus intrusives, beaucoup plus sournoises. Aujourd'hui, vous vous énervez contre les pubs YouTube, les panneaux publicitaires, les pop-up, etc. Mais au moins, c'est des formes visibles de publicité. En tuant ces publicités-là, on risque de faire émerger des formes de publicité beaucoup plus sournoises, beaucoup plus intrusives, contre lesquelles je me bats, justement, vous le savez, avec le placard que je mets devant nos vidéos. Donc, attention à ça aussi. En chassant un problème, on peut en créer d'autres. Le problème, c'est qu'on n'a jamais eu le choix pour les pubs. Et de toute façon, soyons honnêtes, 5 secondes. On vous dit, vous avez le choix entre des pubs et pas de pubs. Regardez, quand on dit, ah ben, il va y avoir moins de pubs, par exemple, 2 mois, au début, vous êtes content, et 2 mois après, vous dites, oh, il y en a encore trop. De toute façon, vous aurez toujours trop de pubs. À écouter tout le monde, il faudrait 0 pub. Mais à ce moment-là, c'est le commerce qui prend un coup dans l'aile. Et ça vous fait ni chaud ni froid que les boîtes de pub ferment. Moi, je vous le dis, vous verrez, ça met des bâtons dans les roues du commerce. Commerce qui n'a pas besoin en ce moment d'avoir des bâtons dans les roues. Mieux vaut trouver un business model moins caché. Bah écoute, si tu le trouves, Aloug. Parce que tout le monde le cherche, hein, à Lyoug. Tout le monde le cherche depuis 40 ans. Le fameux business model qui permettrait d'avoir du contenu gratuit, entre guillemets, sans publicité. Si tu le trouves, eh ben, écoute, tu vas être le roi du monde. Tu es prêt à payer, mais tout le monde là, vous êtes tous en train de dire vous êtes prêt à payer. Regardez le crowdfunding, regardez des gens qui se sont lancés dans le crowdfunding, à demander aux gens, ok, vous n'avez pas de pub. Et vous, je donne l'exemple de Corben, souvent, qui avait fait ça il y a quelques années. Il avait dit, OK, vous me donnez 1 €, j'enlève toutes les pubs de mon site. Il a eu, je crois, 0,01% des gens qui l'ont fait. Voilà. Dans le déclaratif, je sais pas, 20-30% des gens ont dit, ouais, on va payer. Dans les faits, non. Donc, je vous le dis souvent, hein. Les payer, alors ça commence à venir, effectivement, YouTube Premium, parce qu'il y a d'autres avantages. Mais je vous le dis, et regardez les chiffres, le crowdfunding ne remplace pas la publicité. Ça marche pas. Bien sûr que c'est mieux que la pub, mais les chiffres d'affaires diminuent fois 100. Aujourd'hui, regardez rien que le secteur du jeu vidéo, de la presse de jeux vidéo, ce qu'ils se sont pris dans la gueule, ils ont essayé le crowdfunding, ça les a pas sauvés, et ils ont dû virer énormément de monde. Dans ce prêt à payer, qui est contributeur? Voilà, bah, ceux qui ont dit, par exemple, vous êtes prêt à payer pour avoir les choses sans pub, ou mieux, bah, est-ce que vous êtes contributeur déjà de la chaîne? Les contributeurs de la chaîne, ça représente quel pourcentage de l'audience? Ça a largement diminué. J'ai pas de calcul exact, mais on doit être à 0,2 ou 0,3% du nombre d'abonnés qui sont contributeurs. On n'arrive même pas à 1%. 1%, ça a toujours été ma cible. Arriver à ce que 1% des gens qui sont abonnés à la chaîne deviennent contributeurs. Mais je suis très très loin des 1%. Alors, je vais être tout à fait honnête, si on était, par exemple, pas loin de 1% de contributeurs, je serais peut-être pas obligé de prendre des vidéos sponsorisées. Je m'engage à rien en disant ça, parce que je veux pas vous le promettre, mais en tout cas, à diminuer le nombre de vidéos sponsorisées. Moi, j'ai besoin de faire un certain chiffre d'affaires pour que la boîte soit rentable et fasse du profit pour pouvoir faire des investissements futurs. Donc voilà, j'ai un certain chiffre d'affaires à faire. S'il y a plus de contributeurs, je prendrai moins de sponsoring. C'est normal aussi. Merci beaucoup, Sam Rush, pour ton sub. Du coup, tout le monde prend des subs et des primes. C'était pas le but, hein. Le 1%, c'est le credo de Stupid Économique. Ouais, très bonne chaîne, effectivement. Ouais, Stupid Économique demande 1 euro par 1% des contributeurs et ils ont du mal. Oui, c'est pour ça, le truc qu'on vous dit toujours, ah ben la pub, on n'en a pas besoin, moi je suis prêt à payer pour du contenu, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Allez, on continue. Je vois que c'est un débat qui vous intéresse. On en reparlera, on en reparle souvent. Je continue parce que sinon on n'arrivera jamais au bout de l'émission. Est-ce que j'ai fait cet article ? Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Inde hier ? Il y a eu effectivement plus qu'une manif, hein, une révolte des employés d'une usine qui se situe à Wistron, en Inde. Me demandez pas où c'est, hein. C'est dans le sud de l'Inde. Et c'est une usine qui produit des iPhones. Il y a eu une centaine d'arrestations. Alors, les trucs étaient assez violents, hein, quand même. C'est pas de la manif peaceful. Ils ont un petit peu tout cassé. Ils ont surtout laissé rentrer des gens aussi qui ne travaillaient pas dans l'usine. Du coup, il y a eu des milliers d'iPhones qui ont été volés, hein, aussi. Là, on les voit, effectivement, ils ont pété toutes les voitures des cadres de l'usine. Attention, hein, je suis pas en train de dire que c'était pas bien de tout casser, parce que quand on est vraiment en colère, et a priori, la revendication, c'est qu'ils étaient même pas payés, les mecs. Donc, ils étaient vraiment, vraiment, effectivement, en colère. Apple, effectivement, du coup, a demandé une enquête sur les conditions de travail. Et là, on va retomber, effectivement, sur pas mal de problèmes qu'a Apple et toutes les marques de technologie sur la fabrication des produits en Chine, au Vietnam, en Inde, puisque maintenant la grande tendance c'est de diversifier, on produit pas tout en Chine. Le Vietnam et l'Inde deviennent des pays archi producteurs et un peu moins chers que la Chine. Justement, enfin, on va pas retomber sur les vieux trucs économiques, jusqu'où on peut ne pas payer quelqu'un pour produire le moins cher possible, pour que les Occidentaux fassent les meilleures affaires possibles. Je pose ça un peu brutalement sur vos genoux, mais on a une part de responsabilité à chercher les plus bas prix. Les industriels cherchent à produire au plus bas coût possible. Alors je sais, certains vont me dire, oui, enfin s'ils vendaient plus cher, ils chercheraient quand même à produire le plus bas possible. Certes, c'est le problème, mais justement, notre responsabilité vient aussi peut-être dans un achat, un vote. Je suis pas contre boycotter effectivement Apple si certaines choses deviennent révoltantes sur les méthodes de production, mais pas qu'Apple, parce que je trouve ça complètement incohérent et j'en vois sur Twitter parce que parfois je remonte des fils Twitter. J'ai vu notamment un mec, et c'est pas celui qui m'a pris à partie sur YouTube, mais quelqu'un d'autre m'a pris à partie sur Twitter il y a quelques temps sur les problèmes en Chine avec les comment il s'appelle, c'est les Ouzbeks. Aidez-moi. Avec Apple qui faisait travailler des Ouïghours en Chine. Déjà, moi, j'ai répondu, c'est le gouvernement chinois qui fait travailler des Ouïghours. Après, que Apple, effectivement, ait des usines où il y ait des Ouïghours qui travaillent, oui. Que Apple fasse du lobbying, pas génial dans ce sens-là, oui. Mais on peut pas dire que c'est Apple qui fait travailler des Ouïghours. C'est d'abord le gouvernement chinois, c'est la première chose. Je vais remonter le fil de cette personne, et cette même personne relaie des jeux concours et des offres sur des téléphones chinois très bas prix et très bas de gamme, en disant « je vois pas pourquoi on achèterait un iPhone alors qu'on peut acheter un smartphone à 150 euros qui a les mêmes capacités ». Désolé, mais je trouve que ça manque de cohérence. Voilà. Voilà. Il faut être cohérent. Il faut être les Ouïghours. J'ai dit quoi ? Il faut être cohérent. Je demande juste de la cohérence dans vos révoltes. Et souvent, je trouve que ça manque de cohérence. On va taper sur Apple parce que Apple, c'est bien de taper. On va taper sur Samsung parce que c'est bien de taper sur Samsung. Mais derrière, on va promouvoir des marques qui ne peuvent pas produire des smartphones à ce prix-là sans en payant normalement des gens qui les produisent. C'est juste pas possible. Économiquement, c'est pas possible. Voilà. Alors, certains vont me dire, oui, mais c'est encore plus dégueulasse les marques qui font des marges indécentes en produisant encore plus bas prix. On pourrait discuter longtemps de ça. Si tu t'appelles Apple, tu as normalement le droit de dire que tu veux pas les Ouïghours dans tes usines qui produisent tes produits. Oui, je suis d'accord. Et Apple, alors, on va voir ce qu'ils font par rapport à cette histoire-là. Mais Apple a commencé, effectivement... Le gros problème, on va pas retomber là-dedans, mais quand tu es une grande entreprise et que tu fais travailler des Foxconn, etc., Foxconn sous-traite aussi des trucs à d'autres entreprises. Et au bout d'un moment, tu peux pas être exactement au courant de tout ce qui se passe. Apple et d'autres grandes marques, Samsung, etc., essayent de plus en plus de moraliser. Alors, effectivement, on pourrait discuter de ça parce qu'en même temps, d'un autre côté, ils font du lobbying qui est pas génial sur le droit du travail international. Donc, je veux pas défendre ces marques-là. Mais ce que je dis juste, c'est que c'est naïf de croire que Apple sait exactement qui produit quoi dans les iPhones. Et pareil, toujours par souci de cohérence, si vous achetez des t-shirts à 5€ dans une marque, vous êtes tout content d'avoir fait une bonne affaire, allez regarder aussi comment les fringues sont produites. Allez regarder comme tout est produit. Et le problème, il est vraiment global. Et après, si vous voulez être cohérent, boycottez toutes ces marques, achetez du local, du fabriqué, il faut être prêt à en payer le prix aussi. Voilà. Juste, il faut être cohérent. Tu remets la responsabilité sur nous les consommateurs ou les politiques qui autorisent les consommateurs à avoir le choix de ce qu'ils consomment. J'ai pas mis toutes les responsabilités sur les consommateurs. Je dis qu'il y a une responsabilité sociétale de toute la chaîne. Consommateurs, politiques, pays, entreprises, pays où les produits sont... Voilà, il y a des chaînes de connivence, on va dire. Mais on ne peut pas non plus dédouaner et dire, oh, nous, les consommateurs, on n'y est pour rien, on n'était pas au courant. Pas ma faute. J'ai acheté mes chaussettes à 2€. Je veux pas savoir d'où elles viennent. C'est de la faute des politiques. Tu peux pas non plus raisonner comme ça. C'est pas possible, c'est pas cohérent, en fait. À chercher toujours la chaussette à 2€, tu génères aussi un état de fait dans le commerce. Allez, on continue, mais effectivement, on va voir comment ça va évoluer en Inde. A priori, la situation est revenue sous contrôle. On va voir. On espère que tous ces problèmes en Inde, en Chine, etc., il y aura un éveil, effectivement, des consciences des grandes entreprises, parce que c'est très mauvais pour l'image de marque d'Apple ou de Nike ou de n'importe quelle marque. C'est très mauvais pour leur image de marque et ça leur fait perdre beaucoup d'argent aussi. Donc, il y aura probablement, effectivement, des mesures prises, à fur et à mesure, en tout cas. En même temps, ça parle sur Apple et les Ouïghours, mais ça achète de la fausse marque produite par des mômes. Oui, bah oui, c'est ça. Je pense qu'ils savent qui produit quoi sur l'iPhone, c'est pour ça qu'ils préfèrent sous-traiter, comme ça c'est pas leur faute, mais il n'y a pas qu'Apple. Oui, on a un problème global de toute façon. Oh là, ça commence à partir sur des trucs politiques. Bon, bref, on va continuer sur les articles, on va parler de Cyberpunk 2077, alors vous savez que Cyberpunk est un peu dans la sauce, notamment sur les versions consoles PS4 et Xbox One, qui effectivement... Alors, le jeu, Il y a beaucoup de bugs. J'ai encore joué hier soir, j'ai rencontré des bugs. J'avoue que sur PC, pour l'instant, j'ai surtout rencontré des bugs qui m'ont fait hurler de rire. Genre, un mec que j'avais dégommé, il avait sa tête qui tournait sur lui-même. Mais sur console, les bugs sont quand même beaucoup moins rigolos. Et du coup, CD Projekt Red a fait ses plates excuses. Ils ont dit effectivement que ils étaient prêts à faciliter les remboursements des gens qui n'étaient pas contents. Ils ont également promis pour début de l'année des gros patchs pour rectifier le tir. Un gros patch en janvier, un autre en février. Les pauvres développeurs chez CD Projekt Red, ils sont sortis d'un crush et là ils vont rentrer dans un autre. Ils ont mis en ligne une hotline spécifique pour les remboursements. Ils vous conseillent de vous adresser à votre vendeur d'abord, et si ça marche pas, de les contacter eux. Si vous voulez vous faire rembourser, ne pas attendre les patchs. J'ai vu ce matin très rapidement que Psychodélique, la chaîne Psychodélique, que vous savez que je suis, mais qui produit, mais il faut que t'arrêtes Psychodélique, il nous fait 5 vidéos par jour. Il a trouvé la recette magique du contenu Psychodélique. Il enregistre live, il monte pas, il publie direct, ça lui prend le temps de lire les articles. Il fait un peu le mug, mais lui, il le publie directement article par article sur le truc. Ça marche bien pour lui, j'en suis très content. Et qui dit que Sony refuserait les remboursements qui sont promis. Donc, j'ai pas encore vu la vidéo de Psychodélique. Après, Psychodélique, et il l'admet complètement lui-même, c'est un peu l'as des as du putaclic. Hein. Il va vous sortir des titres du chapeau. Sony refuse les remboursements. C'est certainement un peu plus nuancé que ça. Mais c'est pour ça qu'on l'aime, on va dire. C'est un contenu psychodélique, on va dire brut de décoffrage, un peu sur la brèche. Moi, je le trouve sympathique. Il a ce rire serbe inimitable. Non, après, je suis vraiment, mais vraiment pas d'accord avec lui sur plein de sujets. Parfois, vous m'entendez hurler quand je vois ses vidéos, mais j'aime bien sa démarche. J'aime bien sa démarche parce qu'il a une approche très réaliste avec le temps qu'il a dans sa vie, puisqu'il a un boulot à côté. Il produit un contenu qui est qualitativement, visuellement, très réaliste par rapport au temps qu'il a. Non, Sony refuse vraiment. D'accord. Bon, bah, on va aller voir. On va aller voir. Il faut être tolérant avec ce projet qui brasse des millions, bien sûr. Psychodélique, il faut être tolérant avec les devs de Cyberpunk. On rebondit, on va pas revenir aller voir le mug d'hier. Je trouve qu'on a eu un débat. Enfin, j'ai l'idée est assez intéressante, je trouve, et plus je creuse, mieux c'est. La tartine d'hier, c'était est-ce que ces jeux-là devraient sortir en early access au lieu de sortir dans des versions finales tellement buggées que même les cafards, il n'y a plus de place pour eux, quoi. Moi, je pense tout le problème, je l'ai expliqué hier, ça vient des investisseurs qui ont besoin d'une date butoir pour récupérer leur mise. Avec du early access, on pourrait résoudre pas mal de problèmes. On pourrait résoudre le problème. Allez, on continue. On va parler, et ça va être le dernier article, qu'on ait le temps pour parler un peu du ProRo. Pornhub a supprimé plus de la moitié des vidéos sur sa plateforme. On sait que Pornhub était quand même dans une grosse sauce, puisqu'ils étaient... enfin, c'est même indécent de parler de sauce à ce niveau-là. Puisque suite à un article du New York Times, Pornhub était accusé de diffuser des vidéos pédopornographiques et de viol. D'ailleurs, Mastercard et Visa ont interdit les paiements sur leur carte bancaire sur la plateforme Pornhub. Du coup, Pornhub a annoncé changer radicalement les règles de sa plateforme afin de lutter contre la publication de contenus illégaux. Seuls les utilisateurs vérifiés sont désormais autorisés à poster des vidéos sur le site. Le géant du porno est allé encore plus loin en supprimant ce week-end toutes les vidéos précédemment publiées par des comptes non vérifiés. Du coup, ils ont éliminé 60% du contenu de Pornhub en un clic. En gros, ils ont pris tous les profils non vérifiés, ils ont tout enlevé. En fait, ils sont passés de 13,5 millions de vidéos hébergées à 4,7 millions de vidéos hébergées. C'est remonté un petit peu après à 7,2 millions. Mais en gros, ils ont supprimé 60% de leur contenu. Ce que dit Pornhub, il dit « Le moindre contenu sur Pornhub a été publié par des utilisateurs vérifiés, une exigence que des plateformes comme Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat et Twitter n'ont pas encore mise en place. » C'est-à-dire, ils disent « Ok, nous... » Bon, alors, les accusations étaient lourdes et je pense que Mastercard et Visa les aient coupées, ça te fait réagir très vite. Mais ce qu'il disait est intéressant. Il dit « Ok, bah nous, maintenant... Il n'y a que les utilisateurs vraiment vérifiés qui pourront publier. Est-ce que Facebook, Instagram, TikTok, YouTube et tout ça fait ça ? » Et il le rappelle que au cours des trois dernières années, Facebook avait été signalé 84 millions de contenus d'abus sexuels sur des enfants sur Facebook, alors qu'il y en avait 118 sur Pornhub. Donc Pornhub dit c'est 118 de trop, c'est pourquoi nous nous engageons à prendre toutes les mesures nécessaires, mais le message est clair, Pornhub a retenu la leçon et semble maintenant vouloir servir d'exemple en termes de modération. Et je pense qu'effectivement c'est intéressant. Maintenant, Facebook, qu'est-ce que vous allez faire ? YouTube, qu'est-ce que vous allez faire ? On sait que ces problèmes effectivement de pédopornographie et même de vidéos de viol, de revenge porn, etc., c'est un problème sur l'ensemble des réseaux sociaux. C'est plus quelque part, c'est plus visible entre guillemets sur un réseau porno, mais il y a le problème sur tous les réseaux sociaux. Et est-ce qu'aujourd'hui, et là je trouve ça intelligent de la part de Pornhub de dire on veut les mêmes engagements. Aujourd'hui, et c'est vrai, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube et Snapchat ne vous autorisent à publier même si vous n'êtes pas un profil vérifié. Et encore, il va falloir regarder les procédures de vérification des profils. Merci beaucoup, Balki, pour ton Prime. Si ça passe sur YouTube, le problème, c'est que ça va être super dur pour ceux qui commencent YouTube. Effectivement, Samy, tu as raison aussi. Parce que à ne publier que des profils vérifiés, c'est la fin d'une certaine liberté de publication qu'offrent les réseaux sociaux. Il faudra montrer patte blanche pour publier. Ça peut poser des problèmes de liberté d'expression. Comme quoi, il n'y a jamais de réponse simple à des problèmes complexes. Mais c'est bien que Pornhub fasse ça. Ça aurait été mieux qu'il le fasse même avant. Il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème, et encore, je ne suis pas rentré dans le détail de ce qui est en train d'arriver avec les deepfakes. Vous savez, ces vidéos où on change le visage des personnes. Mais ça aussi, ça va être un très très gros problème pour les plateformes porno. Et on entend de plus en plus, effectivement, là tu parles d'une institutrice italienne qui a été licenciée parce que son ex a publié une vidéo d'elle sur Pornhub. Il y a de... le revenge porn, ce genre de truc, ça le vend en poupe. Hein. L'anonymat et le problème des réseaux sociaux, liberté sans responsabilité, facile et dangereux. Ouais. Attention Jérôme, à force de flatter Pornhub, tu vas recevoir leur pull de Noël trop beau. Ah, j'ai même pas vu qu'ils faisaient un pull de Noël. La modération, ça va être le mot d'ordre. Mais il va falloir trouver les bons équilibres. Hein, parce que attention, trop de modération, on sait aussi où ça peut mener. Bernadette Chirac, bienvenue à toi. Ça veut dire que si je veux poster une photo de mon chien, je vais devoir montrer une copie de mon permis. C'est pas exclu. C'est pas exclu. N'oubliez pas quand même, parce que là vous prenez des exemples un peu extrêmes, n'oubliez pas que, en tout cas en France, c'est vous quand même qui êtes responsable de ce que vous postez. C'est d'ailleurs ce qu'on reproche aux réseaux sociaux. C'est de ne pas tenir leur part de responsabilité. Mais si vous postez quelque chose qui est répréhensible, vous n'avez pas le droit de dire « j'habite ». C'est sur le réseau social, c'est le réseau social qui est responsable. Vous publiez une croix gammée ou une incitation à la haine ou un post raciste, même dans la chatroom, c'est vous qui êtes responsable. Et si une plainte est portée contre vous, c'est vous qui irez au tribunal. C'est pas Twitch qui héberge la chatroom. Donc n'oubliez pas ça quand même. Retournez votre langue sur votre clavier cette fois avant de taper quelque chose, quoi. Parce que c'est vous qui êtes responsable de ce que vous écrivez. Les profils anonymes doivent disparaître dans la vie, personne n'est anonyme. Ouais, beaucoup pourront te faire la démonstration aussi que d'enlever les profils anonymes ne résoudra pas forcément le problème. Il y a une cellule de gendarmerie qui est spécialisée sur le revenge porn. Tout à fait. Il n'y a pas d'anonymat sur les réseaux sociaux, mais du pseudonymat, ce qui est complètement différent. Oui, quand un article parlera bien de ça, on révoquera les choses. Mais sachez-le quand même, et c'est absolument pas une menace ou quoi que ce soit, merci beaucoup Tic Tac Oumi. Ah mais non, t'as mis ton message en avant, mais merci quand même. Je pense que certains de vous ne se rendent pas compte, on ne le fait pas parce qu'on n'a pas les sous pour, mais si un jour quelqu'un se met à vraiment déconner, à menacer par exemple sur notre chat quelqu'un d'autre ou ce genre de choses, on peut tout à fait porter plainte contre vous et engager les moyens de vous retrouver. Alors vous allez me dire, oh, j'ai un VPN. Ça ne va pas te protéger si on veut vraiment te trouver. Je sais qu'après il y a des moyens de se dissimuler vraiment sur internet, c'est pas forcément à la portée de tous d'entre vous et vous savez pas tous comment faire, donc c'est absolument pas une menace hein. Mais sachez quand même que vous pouvez pas dire tout et n'importe quoi. Sur internet en vous disant c'était une blagounette. Attends, ma croix gammée, là, c'était une blagounette. Ah, puis attention, hein, j'ai le droit de dire ce que je veux, on est quand même, on est en liberté, on peut plus rien dire de nos jours. Il y a des choses que t'as pas le droit de dire. Ouais, c'est comme ça, t'es pas content, il y a d'autres pays où t'auras le droit de le dire. Point. Hein, on va sortir un peu du mode bisounours. Ça m'intéresse de savoir comment on me retrouve si j'ai un VPN. Renseigne-toi. Ouais, la phrase magique. On ne peut plus rien dire de nos jours. La phrase du tonton bourré à Noël. Ouais, enfin, tu te rendras compte qu'il a 12 ans. 12 ans ne t'enlève pas toutes les responsabilités non plus, hein. Ouais, le prend pas mal aussi. Méfiez-vous des phrases qui commencent par le prend pas mal, effectivement. Allez, on continue, on va passer effectivement à la tartine. Ce matin, je vais vous parler du ProRo, donc on va passer sur des choses beaucoup plus légères. Mais avant, on va parler effectivement de notre sponsor Shadow PC. Vous pouvez gagner un mois de Shadow PC tout toutes les semaines sur la chaîne. Pour ça, il vous suffit de participer sur Twitter au tirage au sort. Vous nous dites pourquoi vous voudriez gagner un Shadow PC. Vous mettez bien les hashtags Shadow PC et le hashtag le mug Nowtech. Et comme ça, vous aurez peut-être la chance d'être tiré au sort vendredi. Il faut aussi suivre le Twitter de Nowtech TV pour que je puisse vous contacter en DM si vous avez gagné. Hein, ça, c'est important. Et on avait oublié de le préciser ces derniers mois. Bonne chance à tous. Rendez-vous vendredi pour voir quel est le gagnant. Et on passe tout de suite à la tartine. Alors, juste avant de commencer la tartine, certains ont mal pris peut-être ce que j'ai dit. Ce n'était pas une question de vous faire une leçon de morale ou de quoi que ce soit. Juste pour vous expliquer comment ça fonctionne. Vous êtes responsable de ce que vous écrivez sur Internet. Vous ne pouvez pas dire « Oh, c'est sur un petit chat d'une petite émission, c'est pas vraiment ma faute, monsieur l'agent. » C'est juste pour dire ça. Et qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire en France. Les incitations à la haine, faire la promotion, par exemple, du nazisme et des choses dont la loi française s'est interdit. Donc, je le dis juste parce qu'on a eu des cas de dérapage. Alors, souvent, c'était une blague, mais il faut savoir que c'est vous qui êtes responsable de ça, s'il y a des poursuites qui sont engagées contre vous. C'était juste pour dire ça. Juste pour vous rappeler, c'était absolument pas une menace, mais parfois certaines personnes oublient que c'est leur responsabilité ce qu'ils publient sur Internet. Allez, on va parler du ProRo qui arrive effectivement avec la 14.3 pour ceux qui ont un iPhone 12 Pro ou un iPhone 12 Pro Max. Je rappelle que le ProRo n'est pas accessible sur l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini. C'est comme ça. Il faut une certaine puissance. Notamment de RAM, là, pour le coup. Disons que, on va arrêter le débat tout de suite, Apple aurait pu mettre le ProRo pour l'iPhone 12 et 12 mini. Mais Apple a jugé que l'expérience ne serait pas assez satisfaisante selon ses standards parce que ça rendrait le déclenchement trop lent. Parce que, pour pouvoir faire du ProRo, il faut une machine capable de calculer extrêmement rapidement beaucoup de données. Le ProRo génère quand même un fichier énorme par rapport à une photo JPEG. Et il faut le temps de pouvoir inscrire tout ça. Alors, sachez quand même par contre que vous pourrez traiter le ProRo. Par exemple, là, l'exemple que je vais vous montrer, on va traiter du ProRo sur mon iPad. Mais j'ai quelques petites choses à vous dire sur le ProRo. Il ne faut pas confondre le ProRo d'Apple et le RAW. On va vous le redire bientôt dans des vidéos. Je suis même en train d'écrire une vidéo qui sera vraiment centrée sur le ProRo. Mais pour bien comprendre, le RAW, à l'origine, RAW, c'est ce qu'on appelle un brut de capteur. C'est une image vraiment pas jolie, normalement, qui est moche, parce que aucun calcul de traitement informatique de l'image n'est fait dessus. C'est juste le signal brut que donne le capteur, voilà, ce qui va scanner comme image. Ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'en fait, quand vous faites une image avec votre smartphone, mais même avec votre appareil photo, il y a un brut de scanner et après, il y a tout un tas de traitements qui sont faits sur votre photo et boum, ça vous donne la photo finale. OK ? Donc, le RAW brut, c'est généralement une image très moche. Je vous montrerai tout à l'heure un RAW brut fait avec un iPhone. Le Pro RAW, c'est ce que propose Apple avec la 14.3, c'est une base de RAW, donc un brut de capteur, mais avec au-dessus, imaginez comme un truc Photoshop où il y aurait des calques. Le premier calque serait votre RAW brut de capteur, et il y aurait des calques par-dessus qui seraient en fait les traitements informatiques que Apple apporte à vos photos. Que ça soit le mode nuit, etc. Donc, ça a l'avantage qu'une photo en ProRAW, elle ressemble à une photo JPEG et vous pouvez la publier tout de suite. Elle est utilisable. Vous n'avez pas besoin de la passer dans un logiciel de traitement de RAW pour l'utiliser. Et ça, c'est assez intéressant. Je vais vous montrer, parce que je pense que les choses sont peut-être plus parlantes si je vous montre ça. Alors d'abord, je vais vous montrer... Attendez, j'essaie d'en trouver une qui serait en RAW brut. Voilà. Alors, là, mais je ne sais pas si vous allez bien voir avec les compressions de Twitch. Ça, c'est une image en RAW brut. En fait, si on zoome dessus, vous voyez qu'il y a plein de grains. Elle est absolument pas traitée. Les couleurs sont un peu fadasses, et pas badass, fadasses. Ça, c'est un RAW qui... Ce n'est pas un Pro RAW. C'est un RAW qui a été fait avec Lightroom sur l'iPhone... Attendez, je vais prendre exactement où il a été... comment il a été fait, ce RAW. J'ai un petit plugin qui me permet d'examiner les images. Ça a été fait avec l'iPhone 12 Pro. Et ça a été, je sais que ça a été fait avec Lightroom. Donc là, on a vraiment un brut de capteur. Alors, si, il y a des couleurs, mais elles ne sont absolument pas traitées. Je vais essayer de vous montrer la même photo. Est-ce que celle-là est traitée? Non, ça, c'est un brut aussi de capteur. Alors, je ne l'ai pas en grand. Mais par exemple, voilà, ça, et je dois avoir un peu moins de grains, ouais. Ça, bon, alors, c'est pas le même angle de vue, mais ça, là, il va y avoir le traitement des couleurs qui est fait dessus. OK? Maintenant, je vais vous montrer un Pro RAW. Alors, un Pro RAW, cette image est une image en Pro RAW. Ouais, alors, rien d'exceptionnel. Tes noirs sont un peu bouchés. Ton ciel est pas mal. Tes noirs sont un peu bouchés. Si ça avait été un JPEG, et que j'avais essayé de remonter mes valeurs dans la ligne d'arbre. Ça aurait marché, mais j'aurais vite eu quand même une bouille de pixels, puisque le JPEG est un format écrasé. Maintenant, vous allez voir, donc c'est un Pro RAW. Vous voyez le petit RAW qui s'affiche en haut. On va bien vérifier, hein, parce que je vous sens sceptique que c'est une photo qui a été faite, effectivement, avec l'iPhone 12 Pro Max. Avec l'objectif principal, F1.6, temps de pause, ISO 32. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire modifier. Et je prends juste le réglage de la brillance. Et regardez la ligne d'arbre. Alors, je fais à l'extrême. Regardez ce qu'on récupère comme info dans un Pro RAW. Alors, pour bien comprendre quelque chose, le Pro RAW est un fichier RAW qui est compatible avec toutes les applications qui permettent de lire du RAW. Mais attention, il y a un piège. Il faut que votre application, donc n'importe quelle application peut ouvrir le Pro RAW. Mais il faut des applications qui puissent traiter vraiment le Pro RAW. Moi, j'ai été vachement déçu par le Pro RAW au début parce que je l'avais ouvert dans Lightroom avant que Lightroom soit compatible avec le Pro RAW. Et du coup, j'avais une image très écrasée et j'avais pas beaucoup d'infos. Donc, pour l'instant, le RAW, je sais qu'il est compatible avec Alid et il est compatible avec Photo sur iOS 14.3. N'essayez pas d'ouvrir un Pro RAW avec iOS, si vous êtes encore en 14.2. Donc, je vous montre, voilà, je vais remonter la brillance, on va faire un peu extrême, je remonte la brillance, on va y aller, on va taper fort sur la saturation, j'y vais fort, hein. C'est moche, on est d'accord. Photo prise, photo traitée. Photo prise, photo traitée. Oui, ok, la photo n'est pas droite, mais ça, c'est votre serviteur qui... Je vais changer un peu la température, on va se mettre dans un côté un peu plus automnal, et voilà. Donc, comme vous voyez, on a une latitude de correction sur une photo prise, photo traitée. Alors, certains vont me dire, oui, mais ta photo vraie, c'est celle-là, et ça, c'est une photo fausse. Me lancez pas là-dessus. Non, mais voilà, là, j'ai fait too much, bien évidemment. Je ferai jamais un traitement à la truelle. On va baisser un peu les couleurs. Je vous ferai plus quelque chose comme ça. La clarté, la brillance, elle est beaucoup trop forte. Elle est beaucoup trop forte, voilà. On aurait plus quelque chose comme ça. Mais même ça, par rapport à ma prise de vue initiale, j'ai changé ma température de couleur, j'ai quelque chose de plus automnal. Je remonterai peut-être, justement, indépendamment un petit peu les ombres, voilà, pour qu'on voit plus les arbres. Et peut-être que, dans mes hautes lumières, je baisserai un peu les lumières du ciel pour dramatiser un tout petit peu le ciel. Et voilà. Donc, vous voyez, ce qu'il y a d'intéressant, que vous comprenez bien, c'est que le Pro RAW est un format qui, de base, et là, vous avez la photo de base, est exploitable. Si, en RAW, c'est possible de faire ça, mais tu n'aurais pas une image exploitable au début. Il y aurait, par exemple, beaucoup de grains, parce qu'il n'y a pas de denoiser sur une vraie photo RAW brute de capteur, il n'y a pas le denoiser. Alors que sur une photo Pro RAW, par exemple, il a éliminé tout le grain. Non, format RAW en vidéo, y a pas... c'est plus compliqué que ça. Le RAW en vidéo, là tu es en train de parler de Vlog. Alors, il y a aussi le RAW en vidéo. Ça devient très complexe. Mais la vidéo, c'est pas tout à fait pareil. Mais effectivement, et ça, j'en parlerai, on en parlera dans des vidéos qui vont sortir. Le Dolby Vision en vidéo, c'est un peu avec le 10 bits, est un peu une forme de RAW pour la vidéo. Voilà. Non, le Pro RAW n'est pas un gros JPEG. Le Pro RAW est un JPEG plus un RAW. C'est comme si tu avais un RAW en dessous et un JPEG au-dessus en calque, c'est-à-dire indépendamment. Et que si je vais faire des corrections dans les hautes lumières, ce genre de choses, ça va se passer au niveau de mon brut de capteur qui va être la couche de dessous, sans toucher au traitement informatique de l'image que Apple a fait, qui serait en couche au-dessus, en fait. Alors, le poids d'une photo est très important, puisque c'est 42 mégas une photo en Pro RAW, mais je trouve que Apple l'a plutôt bien implémenté dans son application principale. Si vous activez le Pro RAW sur votre iPhone 12 Pro ou 12 Pro Max, il ne va pas faire toutes vos photos en RAW. Il va mettre un bouton en haut à gauche sur votre appli photo que vous pouvez activer. Et c'est d'ailleurs le conseil que je vous donne, toutes vos photos ne méritent pas un Pro RAW. Mais par exemple, une photo comme ça, typiquement, vous le savez, et ça, quand vous êtes photographe, vous savez qu'une photo comme ça, soit vous cramez le ciel et vous avez une bonne ligne d'arbre, soit vous avez une ligne d'arbre qui va être trop sombre. Donc vous savez que vous allez la retoucher après. Et du coup, là, c'est typiquement le genre de photo où vous allez vouloir activer le mode Pro RAW. Et puis on va la mettre droit parce que je sens que certains sont obsédés par ça. Est-ce qu'elle est vraiment tordue? Oui, un petit peu. Voilà, on la met un petit peu droit. Voilà. Il faut une rotation. Oh là là, les jeux de mots. Donc voilà, c'est ça le Pro RAW. Alors, c'est pas exactement indispensable pour faire des photos de plage de Jason et de Marie-Lise, parce que vous pouvez quand même retoucher un JPEG, machin, mais quand vous voulez faire de la photo que vous allez exploiter dans un cadre professionnel, et oui, on peut faire des photos professionnelles avec un iPhone, ça dépend le type de photo qu'on fait, mais vous verrez dans des prochaines vidéos, on vous parle de tout ça. C'est vachement intéressant d'avoir ce mode Pro RAW. Et ça va surtout être intéressant pour ceux qui utilisent leurs iPhone Pro, 12 Pro, comme une machine à images pour les réseaux sociaux. Bon, je peux plus vous arrêter sur les jeux de mots autour d'Euro, donc on peut plus parier sérieusement. Où sont les perruches sur la photo? Ok, on me prend comme ça. Alors, ok, à noter. Je prends mon stylet. Et on va dessiner une perruche verte. Voilà. Alors, les perruches vertes, elles étaient là en vol. Voilà. Vous avez les perruches vertes. Voilà. Hein ? Vous êtes content ? Vous avez vos perruches vertes. Hein, tout de suite, ça embellit la photo, hein. C'est un ragondin. Non, ça, c'est une poule d'eau. Voilà. Hein ? Poule d'eau. Voilà. Et alors, vous pouvez aussi hein, rendre le ciel plus orange, hein, si vous voulez. Hein. La liberté de la retouche est fantastique. On va ajouter de l'orange dans le ciel. Voilà, comme ça. Et l'eau, elle est pas... L'eau, c'est bleu quand même, putain. Là, elle est pas assez bleue, ton eau, Jérôme. Hein ? Faut la rendre un peu plus bleue. Ben voilà, de la... puis les arbres un peu plus verts quand même. Ah mais merde, on voit plus les perruches. Bon, on va les surligner, les perruches. Voilà. Comme ça, on les voit mieux. Hop. Et voilà pour votre touche, monsieur. Ça vous va comme retouche ? Voilà tout ce qu'on peut faire. Tiens, vous voulez que je vous montre un truc secret ? Est-ce que vous voulez un truc secret ? Donc là, vous avez vu que je suis en mode édition, où je peux retoucher avec des crayons, écrire des choses sur ma photo. Mais ce que vous savez peut-être pas... Attendez, je vais revenir en arrière. Ce que vous savez peut-être pas, parce que moi, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Merde. Je reviens en arrière. On va enlever les perruches. Touk, 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 touk. C'est que, à droite, là, vous avez un petit plus. Vous le voyez ici ? Et je peux ajouter sur ma photo du texte que j'ai envie de taper, par exemple. Perruche. Merde, perruche. Voilà. Hop, et je peux ajouter du texte. Mais, j'ai même mieux. Je peux même mettre une loupe. Si je veux zoomer sur un détail de la photo, par exemple, vous voulez montrer que ça pixelise pas trop, et je peux zoomer dans la loupe. Voilà, là, je vous fais... On va le faire sur les chaises. On voit que, d'ailleurs, il y a une nana avec un bonnet blanc dans la chaise. Ça, vous pouvez l'intégrer. Vous pouvez également mettre... Voilà, une bulle. Hop. Magnifique, non ? C'est stylé, hein ? On est dans les graviers. Non, je vous fais un tuto. Vous pouvez mettre une flèche aussi. Voilà, les perruches, elles étaient là. Voilà. Pas mal quand même. Pas mal, pas mal. Bref, on revient à nos moutons. Le Pro-Ro, je vais vous le faire sur une autre photo. Le Pro-Ro, et puis on s'arrêtera là après. On enlève toutes ces merdasses. Bon, faut que je fais annuler. Je reviens à ma photo d'origine. Merde, il enregistre. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est l'avantage d'une photo RAW. Si je fais modifier, je reviens à la photo de base, même 3 ans après, je peux revenir à l'original de ma photo. Ok. On va le faire avec une autre photo. Alors là, pour le coup, elle est super tordue, celle-là. Alors, on va peut-être prendre une un peu moins tordue. On va prendre celle-là, par exemple. On va la remettre droit, hein, vous inquiétez pas. Effectivement, j'étais un peu tordu ce jour-là. Voilà, on va la remettre droit. Et là, vous voyez, cette photo... Bon, après, moi, je l'aime bien, cette photo, mais après, tout... Le ciel est pas mal. Il y a un peu de bending dans le ciel, par contre. Le ciel est pas mal, mais les deux gros graviers devant... On ne sait pas si ça se trouve, c'est un lac en pente. Les deux gros graviers devant, bah, c'est des masses noires, c'est pas très joli. Ok, je modifie. Je vais dans brillance. Et je ramène, puisque là c'est un proro, je ramène un petit peu. Alors là, je trouve que mon ciel commence à faire un peu artificiel. Donc, je vais ramener de la lumière un petit peu dans mon ciel. Vous voyez le bending qui bouge, c'est super drôle. Voilà. Là, j'élimine pas mal le bending. Et puis, bah, il faisait gris, un peu gris ce jour-là. Donc, on va peut-être ramener un tout petit peu de vibrance dans les couleurs. Un petit peu de saturation. Voilà. Température, on va mettre un petit coup de jaune parce que c'est l'automne quand même. Du coup, j'ai du bending qui remonte dans le fond. Je vais un petit peu amplifier mon point noir. Pluminosité, non. Je ne vais pas y toucher. Je vais peut-être remonter un tout petit peu mes ombres, juste pour ramener un petit peu d'informations dans le caillou. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Tout petit peu de netteté. Un petit peu de définition, ramener un tout petit peu de contraste dans les fonds, réduire un tout petit peu le bruit parce que j'en vois un petit peu dans les arbres. On va mettre un peu de vignette, non. Voilà, un peu de vignette pour faire cacou. Non, non, c'est moche la vignette en fait. J'évite. J'en mets un peu sur Instagram, mais j'évite. Et voilà. Et photo d'origine. Photo retouchée grâce au Pro. Vous êtes convaincu ou pas par la démo? Mais Jérôme, une photo RAW est modifiable aussi, donc c'est quoi qui change? Alors, je vais tenter de réexpliquer. Une photo, un vrai RAW que tu aurais fait, enfin, un RAW que tu aurais fait brut de scan. Tu aurais une image, hop, on reprend celle-là, ton image, grosso merdo, il y aurait beaucoup plus de bruit. Alors, je vais artificiellement rajouter du bruit. Enfin, là, on voit rien. Ah ben non. Oui, je peux pas rajouter du bruit. Il y aurait du bruit, c'est-à-dire, il y aurait des... Tu sais ce que c'est que le bruit numérique. Et les couleurs seraient probablement pas... seraient plus comme ça, tu vois. Ça, ça ressemblerait plus à un RAW brut de capteur qui sortirait. Donc, il faudrait que tu la retouches encore plus pour... non, je connais pas. Il faudrait que tu la retouches encore plus à un RAW brut de capteur pour obtenir la photo que tu veux. L'avantage d'un Pro RAW, c'est que quelque part... Alors, je vais essayer de vous trouver une photo plus flagrante. En gros... dans d'anciennes photos... Oula. Ouais, mais j'en ai pas beaucoup des photos qui ont été faites en gros ici. Nanana. Voilà, je vais prendre celle-là par exemple. Il est tordu aussi. Celle-là, si je l'avais shootée en RAW brut de scan, brut de capteur, j'aurais pas ces couleurs-là du soleil. Et le Pro RAW me donne quand même les traitements informatiques que Apple fait sur la photo pour me permettre d'avoir ces couleurs-là. Et par exemple, la réduction du bruit, elle est déjà appliquée en fait. Est-ce que tu comprends la différence? Prenez juste la réduction du bruit. Un RAW brut de capteur, il n'y aura pas de réduction du bruit. Il va falloir appliquer votre propre denoiser. Alors qu'un Pro RAW, Apple va appliquer son denoiser. Donc vous n'aurez pas de bruit dessus. Mais vous aurez quand même les capacités de retouche. Là, c'est bien un RAW. vous aurez les capacités de retouche, notamment par exemple ici, il faut faire remonter dans les ombres et je retrouve, on voit même une maison qu'on voyait pas dans, enfin des barrières qu'on voyait pas dans la photo originale. Donc vous avez une capacité de retouche et vous voyez là, le ciel il bouge pas. Cette capacité de retouche est obtenue avec le format RAW en fait. Est-ce qu'il y a besoin d'un Pro RAW avec un vrai appareil photo? Je rêverais d'avoir du Pro RAW sur mes plus gros boîtiers. Le problème, c'est que mes plus gros boîtiers sont moins forts que les iPhones en traitement informatique de l'image. Ça va vous choquer? Ah oui, le flair, ça c'est un autre problème. Ça va peut-être vous choquer, mais... et ça, tu vois, j'en ai discuté avec Guillaume, j'en ai discuté avec Emmanuel Pampuri. Un truc que certains qui vont dire « Oui, mais pour faire une vraie photo, il faut un vrai boîtier, donc un gros boîtier. » Les gros boîtiers, aujourd'hui, sont complètement à la ramasse sur le traitement informatique de l'image dans certaines situations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les iPhones sont beaucoup plus forts dans certaines situations et je rêverais d'avoir des modes nuit, par exemple, sur des gros boîtiers, d'avoir certains modes, même le denoiser d'Apple qui est excellent. En fait, il faut comprendre une chose. Sur les smartphones, la puissance du processeur est beaucoup plus grande que sur les gros boîtiers photo. Sur les gros boîtiers photo, ils mettent des processeurs qu'on avait sur les smartphones il y a 10 ans. Après, quelqu'un qui retouche ses photos, il s'en fout parce qu'il sait que ses photos, il va les traiter derrière. Mais moi, j'aimerais bien avoir un mode Pro RAW, justement, qui m'offre des photos satisfaisantes en RAW que je pourrais publier tout de suite avec mon gros boîtier, tout en gardant la latitude de retouche, quoi. Et pas être obligé de retoucher mes photos avant de les publier. Donc, les gens qui disent « Ouais, non, mais on prend des vraies photos avec des vrais appareils photo. » En fait, d'abord, on pourrait parler de ce que c'est qu'une photo pendant des millions d'années. Moi, je pense que la technique n'a rien, pas grand-chose à voir avec une photo. Il faut bien comprendre que pour des photos prises rapidement, les smartphones sont supérieurs aux gros boîtiers. Pour des photos prises rapidement, dans des conditions un peu extrêmes, comme un paysage où il y a des plages dynamiques compliquées. Voilà. Par contre, derrière, tu me dis, pour faire du portrait, tu as à choisir entre ton gros boîtier et ton smartphone, mais le smartphone, il vole et il éclate contre le mur, quoi. Pour le portrait, je trouve, en tout cas moi, dans ma pratique photo, pour le portrait, j'ai besoin d'un gros boîtier pour faire vraiment du portrait. Le faux bokeh, c'est du faux bokeh pour l'instant. On en est très très loin à ce qu'on obtient avec un vrai boîtier. J'aime pas dire un vrai boîtier, un gros boîtier. Avec des grosses optiques. Mais pour du paysage, et du paysage comme ça à l'arrache, un petit paysage de vacances, je préfère sortir mon smartphone que mon gros boîtier, j'ai des meilleurs résultats. Et si Apple sortait une vraie caméra? Il faut savoir qu'ils en ont fait des caméras il y a très 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 longtemps, qui étaient nulles à chier. On en parle souvent avec Albert, avec Emmanuel Pampuri. Apple ferait une caméra, mais je peux te dire que ce serait un rêve. Je pense pas qu'ils vont le faire. Par contre, ça serait intéressant, ça serait super intéressant que Apple permette à un fabricant de grosses caméras d'utiliser iOS. Ça serait super intéressant. Là, pour avoir les exifs, je sais plus comment elle s'appelle. Examiner. Putain, il n'y a plus le. Attends, ouvrir dans l'application principale. Je sais plus comment elle s'appelle cette application. Mais cherche métadonnées dans iOS, t'en as plein des trucs qui te donnent des infos. Si tu arrives à reconnaître celle. Merde! Pardon. Je n'ai pas appuyé sur le bon bouton. C'est celle-là qui me donne toutes les infos, effectivement, sur les métadonnées. C'est même, tu as vraiment toutes les métadonnées. Tu peux aller très très loin dans tes métadonnées, quoi. Mais je ne sais plus comment il s'appelle cette appli. Voilà. Dites, il est 9h31. Faut que je vous quitte et on n'a pas fait de camp de fac, mais là, il faut vraiment que je vous quitte. Mais c'est. Enfin, moi, ça m'a intéressé de faire ce petit truc sur, sur le ProRo. Parce que je trouve que c'est. C'est une approche intéressante de la part d'Apple sur la photo. Après, bien évidemment, Samsung ne pourra pas faire du Pro RAW, c'est propriétaire Apple, mais Samsung peut tout à fait lancer le Super RAW d'inspiration du Pro RAW, donc c'est des choses qui peuvent tout à fait arriver sur Android. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée à tous. Tu peux faire de la vraie photo avec un argentique plein format, avec un jetable. Tout à fait, avec un Polaroid, ça fait une vraie photo aussi. Non, le casque Apple, je ne vais pas le tester, hein, Lollipop. Donc je ne l'ai pas. Je ne vais pas le tester, ça ne m'intéresse pas de le tester. Je ne suis pas un pro en audio. Il vaut peut-être son prix, mais nous, on n'a plus de trésor pour acheter des produits comme ça. On s'est ruiné avec les iPhones et avant qu'on les revende, il n'est pas question qu'on fasse rentrer un autre produit comme ça. Allez, je vous fais des gros gros bisous à tous. Demain, vous retrouvez Marion. Elle sera probablement encore au smartphone parce que ce week-end, on a fait autre chose que de réparer son Mac. Hein. Voilà, on a fait des cadeaux de Noël, parce que c'est important, la famille aussi. Donc demain, elle sera au smartphone, mais le plus important dans un mug avec Marion, c'est pas l'outil. Donc juste désolé pour ceux, le replay sera en mauvaise qualité. Mais voilà, en attendant que OBS soit réparé sur Big Sur, ce qui n'est pas encore le cas. Je vous fais des gros bisous, vous retrouverez aussi Guillaume jeudi. Ciao tout le monde !